Ce matin, nous allons lire un texte qui se trouve dans les psaumes, le psaume 131, un psaume des montées. Le psaume 131. De David, Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas, je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille, comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Israël, attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Regardons d'abord ce verset 1. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Littéralement, on peut traduire à partir du texte hébreu, « Seigneur, mon cœur ne s'est pas gonflé, ni mes yeux haussés. » Vous savez que dans la langue hébraïque, c'est des images quasiment physiques qui sont employées pour décrire le sentiment de foi, la piété, la relation à Dieu. Et par exemple, quand les prophètes ou Moïse emploient l'expression « voir la face de Dieu », la face, évidemment, Dieu n'a pas une face, il n'est pas un homme pour avoir des mains ni des pieds, ou quand il est dit que le peuple de Dieu Israël est la prunelle de ses yeux. Et donc la langue hébraïque emploie des images très, très concrètes pour décrire certaines attitudes, certains sentiments. Les entrailles de miséricorde, par exemple, vous voyez, donc des images qui ont rapport au corps. Donc mon cœur ne s'est pas gonflé, hein, ça parle. Ni mes yeux haussés, c'est-à-dire le regard, vous savez, hautain. Ça me rappelle une institutrice qui racontait que le jour de la rentrée, une maman était venue avec son petit, pas plus haut que trois pommes, et puis il avait des lunettes de soleil, et puis il est rentré dans la classe en donnant un grand coup de pied à la porte. Il a regardé la prof comme ça, la mère, elle était à côté, elle disait rien. Bon. Les yeux qui se haussent, voilà, qui regardent d'un air un peu narquois, comme pour un peu provoquer. Tout ça nous parle finalement de l'ambition. Et il faut reconnaître que l'ambition, c'est un style de vie que notre monde moderne encourage. Il n'est pas de publicité, de films, d'émissions télévisées, de conseils en coaching, de théories de management, de livres qui n'encouragent à mener un style de vie ambitieux. Et à écouter cette culture, eh bien, bonjour la frustration, parce que pour arriver à ça, il faut, voilà, il faut y arriver, quoi. Bonjour la frustration. Vous allez dans certains magasins, je ne citerai pas le nom, mais de culture, on va dire, où vous avez les rayonnages remplis de livres de développement personnel, comment en 10, 10 points ou 3 points faire, être quelqu'un d'important, réussir. Bref. Alors, avoir des aspirations, des buts dans la vie, c'est une chose, encore faut-il qu'ils soient réalistes, ces buts, et ne pas penser qu'on pourra faire l'économie d'efforts et de sacrifices pour les atteindre, sachant aussi ce que ça peut impliquer pour sa famille et pour soi. Moi, j'ai reçu une éducation où j'ai appris à travailler jeune pour me payer mes guitares, mes amplis et tout ça. Il fallait que je travaille l'été, j'économisais. J'allais au marché-gare à 4h du matin décharger les camions, puis je prenais le vélo après à 8h pour aller faire 10 km pour ramasser des guines en plein soleil. Bon, j'ai appris l'effort, j'ai compris ce que ça coûtait, ce que ça pouvait coûter les choses, et à les apprécier du coup, bien sûr. Le goût de l'effort. Donc c'est normal d'avoir des buts dans la vie. On a tous des buts, des désirs. Jusque-là, rien à dire. Dans ce texte, le psalmiste nous interpelle pour autre chose. Il nous interpelle pas seulement sur la moralité de nos actions, à savoir si certains projets ou buts sont louables, légitimes. Le psalmiste nous interroge plus exactement sur ce que nous considérons comme une valeur essentielle dans nos vies quand nous prenons des décisions. Il nous interroge sur ce qui en nous nous motive réellement. Plus précisément, est-ce que l'ambition doit être le moteur de la vie humaine ? Seigneur, mon cœur n'est pas hardi ou gonflé. Mes yeux ne s'élèvent pas. Comme pour défier, hein, en quelque sorte, Dieu ou quoi que ce soit. Peut-être que certains répondront qu'il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Comment mener des projets à terme si on n'a pas un minimum d'ambition ? C'est vrai, cette ambition-là, ces projets, on va dire, qu'on veut mener à terme, correspondent en fait aux désirs. On a tous des désirs qui se trouvent en chacun de nous. Et c'est parce qu'on a des désirs qu'on peut mener certains projets à terme, des envies qui nous donnent le goût aussi de vivre, d'entreprendre, on est d'accord. Mais le psalmiste se situe ailleurs dans ce texte. Il nous décrit la situation de l'homme qui se mesure à Dieu, finalement, plutôt que de le chercher et de se soumettre à lui. L'homme qui se pense le capitaine de sa vie. L'homme qui, le regard hautain, pense faire jeu égal avec son Créateur, plutôt que de lui reconnaître la primauté et l'adorer en conséquence. Et d'ailleurs, je remarque souvent dans les films, dans les émissions, on élève les gens qui se sont faits eux-mêmes, hein, self-made man, des gens qui n'ont rien à devoir à personne. Pourtant, la vie nous apprend que de la naissance à la mort, si on prend les deux extrémités de nos vies, on a besoin des autres. Hein. On a besoin des autres. Allez visiter les EHPAD et vous verrez ce qui s'y passe. Et si vous laissez un bébé seul, bien, il va mourir. Donc la vie nous apprend que nous avons des besoins que nous ne pouvons pas nous-mêmes combler, que d'autres personnes peuvent nous aider, et parfois, seul Dieu. Seul Dieu. Donc reconnaître vraiment que nous sommes sa créature. La deuxième partie du verset, la traduction dit que j'ai lu, je ne m'engage pas dans des questions trop grandes. Elle peut porter à confusion. On pourrait penser que ce texte nous encouragerait à mettre en veille notre cerveau. Or, la Bible ne nous encourage pas à la stupidité. On peut traduire ce passage ainsi. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni des prodiges qui me dépassent. Encore une fois, c'est l'orgueil là qui est décrit, l'orgueil démesuré, cette attitude arrogante où la créature que nous sommes cherche à dépasser son statut de création et veut devenir Dieu lui-même. On le voit aujourd'hui avec le rêve que bien la médecine et les progrès feront que bien on pourra être augmenté, et l'homme augmenté, et vivre peut-être 1000 ans, pourquoi pas, certains le croient. Hein. Et ils y travaillent, hein. Télécharger son cerveau, se cryogéniser pour dans 1000 ans peut-être ressusciter quand les progrès de la science seront suffisants pour nous réveiller. Alors, quels sont ces chemins de grandeur? Je viens d'en décrire quelques-uns. Les prophètes bibliques se sont souvent employés à critiquer cette attitude démente, la folie des hommes qui veulent ignorer leur statut de simple créature. Oui, nous sommes des créatures, mais créées à l'image de Dieu. Et justement, parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous devons retranscrire cette image aux yeux du monde. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes ceux qui ont la responsabilité de dire qui est Dieu et de le montrer. On voit les prophètes comme Ésaïe, par exemple, qui fustige cet orgueil démesuré, notamment du roi de Babylone, par exemple, dans le prophète Ésaïe au chapitre 12, qui lui prédit d'ailleurs une chute vertigineuse. Je cite, hein, « Alors tu prononceras ce poème contre le roi de Babylone et tu diras « Comment l'oppresseur n'est plus, le Seigneur a brisé le sceptre des dominateurs. On a fait descendre ton orgueil au séjour des morts. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Il est parlé là du roi de Babylone. Hein. « Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Tu te disais « Je monterai au ciel ». J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui agitait la terre, qui faisait trembler les royaumes ? » Bon, souvent ce texte a été pris pour parler de la chute de l'ange du diable. En réalité, il s'adresse au roi de Babylone. Oui, ce texte nous montre aussi la folle ambition de vivre chaque instant de sa vie comme si finalement Dieu n'existait pas. C'est ce qu'on appelle l'athéisme théorique. L'histoire démontre que ceux qui ont eu la prétention de conduire des sociétés sur ces bases-là, c'est-à-dire sur le rejet des termes mêmes de la création, ont fait aboutir leur projet de société à l'exact opposé. Contrôler la vie des autres, les priver de leur liberté, de leur jugement critique et de tout discernement. Il ne manque pas de dictatures qui, au XXe siècle, posaient en leur principe la liberté absolue de l'homme, c'est-à-dire le rejet finalement de la redevabilité que nous avons vis-à-vis de notre Créateur. Bien, il n'est pas de ces dictatures-là qui avaient ces principes-là qui n'ont pas abouti aux pires exactions et privations des libertés. Lisez « L'homme révolté » d'Albert Camus, qui lui pourtant n'était pas un croyant, hein, qui le dit lui-même. Alors quand l'homme ne se positionne pas dans les termes mêmes de la création, c'est-à-dire dans son positionnement de créature et de redevabilité vis-à-vis du Créateur, il finit toujours par faire l'inverse, par assujettir les autres et asservir son prochain. S'élever au rang du Créateur sans posséder ses attributs d'amour, de justice, de vérité, c'est dangereux. Seul Dieu peut exercer une souveraineté parce qu'il est amour, parce qu'il est sage, pleinement sage. L'orgueil démesuré de l'homme sans Dieu est la conséquence de l'homme qui se croit mesure de toute chose. Les chemins de grandeur, le cœur qui gonfle, les yeux hautains. Pour résumer ce verset 1, le chrétien que nous sommes, chacun de nous, renonce à la prétention de se croire suffisant. Il se situe toujours dans les termes de la création, en reconnaissant dans l'humilité, son identité de créature par rapport au Dieu créateur, ce qui le conduit à porter son projet de vie au regard de Dieu. Le verset 2, « Au contraire, je me suis fait calme et tranquille, comme un enfant sevré avec sa mère. » Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Alors oui, les questions là de sevrage, on peut y voir deux idées. La première et la plus évidente, c'est la notion de rassasiement, comme un enfant qui est sevré. Sentiment de rassasiement qui donne une satisfaction, une paix bienfaisante à l'enfant et aux enfants de Dieu que nous sommes. C'est certainement la volonté de notre Dieu que d'apaiser ce besoin, mais Dieu veut que nous développions avec lui une relation qui ne soit pas simplement basée sur un désir comblé. Et c'est pour cela que le titre de ma prédication, c'est la maturité chrétienne, d'ailleurs. La seconde portée et le second point de l'image du sevrage, c'est celle du sevrage définitif, finalement. L'enfant doit passer par cette étape pour ne plus être en symbiose totale avec sa mère, c'est-à-dire dans la non-identification. L'enfant apprend à vivre une vraie relation où la mère ne se résume plus au sein maternel, au lait maternel. L'image du chrétien qui apprend à vivre avec Dieu, non pas pour ce qu'il peut lui apporter, mais pour ce qu'il est, pour ce que Dieu est. L'enfant de Dieu reconnaît en Dieu son Père et il est dans une relation, non pas fusionnelle, mais une relation d'alliance, de foi, de respect pour ce qu'il est. Dieu n'est plus perçu alors comme un moyen pour satisfaire nos désirs, comme ce bébé qui ne connaît que le sein de sa mère, il ne voit que ça. Le chrétien sevré, dans ce sens-là, est celui qui devient adulte. Il ne fait plus de caprices parce que toutes ses demandes ne lui sont pas accordées sur le champ. Le sevrage spirituel nous permet de sortir de la non-identification de Dieu. C'est-à-dire cette idée que bien, Dieu est, dans mon besoin, quoi, finalement, dans ce que je vis, dans ce que je ressens, comme si tout ce que je pouvais penser, c'était Dieu, finalement. Une relation malsaine, puisqu'il y a comme une symbiose où tout se mélange. Ce que je pense et ce que Dieu dit, ce que je ressens et ce que Dieu est réellement. Confondre l'objet désiré et celui qui en est le donateur. Dieu veut que nous entretenions avec lui une relation basée sur une confiance volontaire, non une relation fondée sur le désir et le marchandage. Dieu ne veut pas que nous dépendions de lui comme le drogué, vous savez, qui dépend de son produit. On n'est pas addict à Dieu. Dieu n'est pas une drogue qui nous rendrait dépendants. Il nous élève, il nous rend adultes. Dans la relation de dépendance, il ne peut y avoir d'amour, parce que tout est vécu dans le but unique de retrouver un plaisir perdu. Dieu veut que nous soyons sevrés pour avoir une relation saine, pour que nous ayons une relation saine avec lui. Une relation basée sur une vraie connaissance mutuelle, un partage quotidien, basé sur la confiance et l'amour. Un engagement de vie, où nous décidons de vivre en partenaire d'alliance. Un partenaire d'alliance. Pour nous aider à vivre une telle relation, sans calcul malsain, empreinte d'amour, il est possible que de temps à autre, eh bien, Dieu mette une certaine distance et qu'il ne réponde pas ainsi à certaines de nos requêtes. Des requêtes qui auraient finalement toutes les caractéristiques de celles de cet enfant capricieux et fusionnel que j'ai décrit tout à l'heure. Dieu veut que nous soyons effectivement comme des enfants, mais pas dans la dépendance infantile. Lisez la fin d'un Corinthiens 13. Hein. Alors, c'est vrai que là, c'est par rapport au temps où Jésus reviendra, mais il dit qu'aujourd'hui, nous sommes comme des enfants, alors je verrai comme je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc il est exprimé dans ce texte-là une croissance, même si cette croissance ne sera définitive, elle aboutira pleinement que quand nous le verrons face à face. Donc Dieu veut que nous apprenions à le connaître pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La fin de ce verset 2 nous décrit l'attitude tranquille, sereine et apaisée que le croyant mature trouve dans cette relation apaisée avec Dieu. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Donc la conscience aussi du croyant qu'il est dans une relation paisible, une relation équilibrée avec son Père. Il le connaît. Il ne cherche pas à manipuler Dieu à coups de prière, de forçat. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Il n'est pas en combat avec son Père comme pour faire pression sur lui afin d'obtenir coûte que coûte ce qu'il désire. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. En résumé, pour ce verset 2, on peut dire qu'à l'opposé de l'orgueil, la maturité du chrétien adulte consiste à accepter de vivre une vraie relation avec Dieu en tant que Père, où la communion prime sur la satisfaction immédiate. Verset 3, Israël, donc peuple de Dieu, attend le Seigneur. Attends-le dès maintenant et pour toujours. Le chrétien, alors, débarrassé de tout ce qui parasite sa relation à Dieu, le chrétien mature, donc, vit dans cette attente patiente, persévérante du secours de Dieu. Il accepte le présent dans la paix et la foi. Il garde sa confiance dans le Seigneur. Tout à l'heure, on a chanté ce chant qui parlait beaucoup d'abandon. C'est ce que je suis en train de décrire. Le chrétien mature vit dans la foi que le Seigneur répondra. Il répondra en son temps et comme il lui plaira. Parce que justement, il s'abandonne à lui. C'est ça la foi. C'est cette totale confiance qui ne doit pas être confondue avec un comportement, bien sûr, fataliste. Ce n'est pas une attente advienne que pourra. Non, non. Nous sommes des partenaires d'alliance avec notre Père. Il nous parle, il continue de nous encourager. C'est plutôt une confiance absolue, totale, dans la bonté de Dieu. Rien à voir avec la servilité ou, vous savez, ces gens qui parlent d'un destin, c'était son destin, comme si c'était quelque chose d'arbitraire contre lequel nous n'aurions aucune prise. Ça n'a rien à voir avec ça. Israël, peuple de Dieu, église du Seigneur, attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Nous nous reposons sur notre Dieu parce que nous croyons que notre avenir est dans ses mains. Parce que nous savons qu'il est le Dieu créateur. Nous savons que ce Dieu souverain ne poursuit que des desseins bienveillants. Il n'y a aucun mal en lui, aucun projet malveillant, aucune voie tortueuse pour nous égarer. Il est la lumière, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, c'est ce que dit Jacques. Soyons confiants, frères et sœurs, soyons confiants. En réalité, ce qui nous perturbe, c'est tout ce qui nous détourne de la confiance sereine en ce Dieu-là. Nos craintes, ça peut être nos peurs, nos angoisses, ou quand l'ennemi vient nous perfuser des pensées de doute sur l'amour de Dieu, des doutes sur sa bonté, sur sa bienveillance. Ça peut être aussi notre aveuglement spirituel, notre endurcissement dans le péché. Notre refus de lui céder, justement, de nous abandonner à lui. Nous préférons, eh bien, contrôler les choses nous-mêmes. À abandonner le contrôle de nos vies, ça c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie. Surtout quand on est marié. Et surtout quand on vit en église aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour les personnes que Dieu met à nos côtés. Dieu nous assure qu'il ne peut que nous vouloir du bien. Il ne peut que nous vouloir du bien. Je cite la parole de Dieu. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Il ne pousse personne au mal. Jacques 1, versets 13 à 18. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Je cite le texte. Tous ces cadeaux viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Encore faut-il le reconnaître comme le Créateur et de vivre dans les termes de cette relation créature-créateur. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. C'est-à-dire que l'ombre, c'est encore, ça aussi c'est un sémitisme, c'est-à-dire une image hébraïque. C'est pour décrire, si vous voulez, le changement, puisque l'ombre bouge. Pourquoi ? Parce que le soleil bouge. Mais Dieu n'est pas dans... Il ne change pas d'avis comme nous, on changerait de chemise, quoi. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Alors, connaissant ce Dieu, dont sa gloire se manifeste par son immense bonté et sa grâce... manifesté en Jésus-Christ, et bien connaissant ce Dieu miséricordieux qui ne change pas, le chrétien mature est dans cette attente paisible, comme un enfant sevré. Je suis moi-même comme un enfant sevré. Cette attente de son soutien et de son aide. Attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Cette attente pleine de foi et d'espérance est loin d'être passive. Oui, elle peut se vivre dans un combat même, un combat spirituel, c'est-à-dire le combat de lâcher. On parle souvent de lâcher prise. Elle est vécue dans l'humilité, cette attente, et non dans une arrogance qui se donnerait des airs religieux. Seigneur, mon cœur n'est pas gonflé, mes yeux ne s'élèvent pas. Verset 1, rappelez-vous. Cette attente du Seigneur, elle est au contraire pleine de projets, mais des projets qui sont déposés aux pieds du Seigneur, des projets qui sont portés à son regard et à sa libre, je dis bien, à sa libre appréciation. C'est-à-dire que nous sommes prêts à y renoncer si le Seigneur nous montre que ce ne sont pas ses projets. Ça, c'est important. En conclusion, voilà, avec cette image, ça dit tout. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Dès maintenant et pour toujours. Ça fait drôle de dire ça. Est-ce que c'est un oxymore, une contradiction ? Attendre pour toujours. Mais parce que c'est l'attitude de confiance. On est dans les mains du Père. On est recueilli par son amour. Attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Le croyant mature peut justement porter à Dieu tous ses projets parce qu'il se voit non pas comme le nourrisson dépendant du sein de sa mère, mais il repose dans la main de Dieu. Maintenant. Maintenant dans la main, maintenant, en deux mots aussi. Nous reposons dans sa main, cette main qui nous porte, qui nous sécurise. Attends le Seigneur, Israël, attends le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Amen.